Bonjour, je suis Nicolas Jacou et aujourd'hui pour Mens Sana Incorpore Sano, je suis heureux d'avoir une conversation avec Renaud Mercier sur sa dernière lecture. Bonjour Renaud.
Bonjour Nicolas.
De quel livre as-tu envie de nous parler aujourd'hui?
Alors, c'est une petite découverte récente, même si l'ouvrage est paru en 2016, dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Et son titre est Milon de Crotone ou l'invention du sport.
Ok, et pourquoi ce livre?
Simplement parce que son titre m'a attiré mon attention dans la mesure où Milon de Crotone est un personnage antique et un athlète de renom, un lutteur. Et l'invention du sport, donc, bah, éveillait chez moi un sujet d'intérêt sur l'histoire, justement, sur l'historicité de ce fait.
Ok. Alors, et pourquoi as-tu décidé de nous parler aujourd'hui de cet auteur?
Alors, donc quelques mots hein, donc sur Jean-Manuel Roubineau. Hein. Jean-Manuel Roubineau est un chercheur de l'université de Rennes hein, qui s'intéresse à des personnages historiques de l'histoire grecque, dont Milon fait partie. Il a aussi publié dernièrement un Diogène. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi un auteur qui va s'intéresser aux aspects philologiques, qui va s'intéresser à l'histoire, à l'archéologie. Et si je ne m'abuse, pour l'instant, il est en poste à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai fait moi-même mes études, donc c'est un sujet de curiosité supplémentaire.
Parfait. Et qui est Milon de Crotone alors?
Alors, en quelques mots, Milon de Crotone est un athlète qui vécut au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est un vrai personnage historique. Son domaine de prédilection était la lutte, et il a remporté plusieurs victoires lors des Jeux olympiques. Alors cette période du 6e siècle avant Jésus-Christ est particulièrement intéressante parce qu'on est en plein dans la naissance et l'émergence du phénomène des cités grecques. Et parallèlement, Crotone est une ville qui se trouve en Grande-Grèce, c'est-à-dire dans l'Italie du Sud actuelle, mais qui faisait partie du monde hellénophone, donc en ce 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il faut s'imaginer que ce personnage Milon de Crotone a dû quitter régulièrement sa ville de Crotone pour se rendre à Olympie et dans les autres grands sites où il y avait des compétitions.
Parfait. Et en quoi Milon de Crotone devient-il une figure emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui le sport?
Alors, à l'époque où il vécut, il commençait à émerger avec un franc succès dans le cadre du régime des cités, hein, de ces grandes cités grecques, hein, si on parle d'Athènes ou Sparte, sont apparues de grandes compétitions. International pour l'époque, enfin je dirais plutôt panhellénique dans la mesure où y participaient tous les gens qui appartenaient à la civilisation grecque, à la culture grecque, toute forme de cité confondue. Alors on connaît les grands Jeux olympiques, mais il y en avait trois autres, hein, les Jeux pythiques, ismiques et néméens. Les Jeux olympiques avaient lieu tous les 4 ans, les autres aussi avaient lieu tous les 4 ans, mais à intervalle d'un an chacun, de manière à ce qu'il était possible de participer à des grandes compétitions tous les ans. Et notre ami Milon a eu comme caractéristique d'avoir remporté 7 victoires aux Jeux Olympiques. Il a donc été un Olympionique, hein, donc c'est une très longue carrière. Et il a même remporté sa première victoire en tant qu'enfant, parce qu'il y avait 2 catégories, adulte et enfant, et comme lutteur. Donc on s'imagine que la durée de cette carrière en a fait une figure tout à fait remarquable et qui est restée dans l'histoire, parce que même si ce personnage vécut au 6e siècle avant Jésus-Christ, en réalité, on a continué à en parler pendant toute l'Antiquité grecque et jusqu'à l'Empire romain, à l'époque chrétienne. Et d'ailleurs, il continuera à servir de symbole. Il continuera à servir de symbole jusqu'aux Jeux olympiques contemporains, incarnant une figure du sportif costaud. Et on verra également que dans son histoire personnelle, il eut une fin qui fut peut-être malheureuse et qui participe de cette image emblématique.
Très bien. Alors, en quelques mots, que sait-on de ce Milan?
Alors, ce Milon de Crotone, figure historique, je l'ai bien indiqué, est un grand athlète. Ça, c'est clair. Il a participé aux Jeux Olympiques, j'ai dit, un grand nombre de victoires, hein, 7 victoires, 7 fois olympionique, disait-on. Mais parallèlement, il semble qu'il ait également, d'après les différents témoignages d'auteurs, hein, nous ne possédons pas de vie de Milon, mais nous possédons à travers toute l'Antiquité des allusions tellement nombreuses qu'on en a une figure, je dirais, à petite touche, hein, qui peut se composer sous la plume de, qui peut se préciser sous la plume de l'écrivain, donc hein, Jean-Manuel Robineau ici, à travers son travail exceptionnel. Et qu'a découvert notre auteur? Il a découvert en fait que notre personnage de Milhomme était le premier sportif professionnel de l'histoire, dans la mesure où non seulement il a participé à ces grands concours, hein, olympiques, pythiques, ismiques et néméens, qui étaient des concours dits stéphanites, c'est-à-dire qu'on n'y gagnait rien du tout à part une couronne, hein, c'était véritablement l'idée du sport gratuit, mais il participait également à des concours dans d'autres cités qui, eux, étaient appelées crématites, dans la mesure où on pouvait gagner de l'argent. Et en fait, on peut supposer qu'une part de sa fortune à Crotone était basée sur ses succès sportifs dans tout le monde grec. Parallèlement, notre ami Milon a participé à la vie politique de sa cité. Il est donc devenu, grâce à sa carrière sportive, un homme politique et également un chef de guerre, parce que c'est lui qui va mener, dans la deuxième partie de sa vie, vraiment à la toute fin de sa carrière, la ville de Crotone en expédition contre sa rivale, la ville de Sybaris, expédition qui va être d'ailleurs couronnée de succès, augmentant encore la gloire de Milon, qui est un homme complet du point de vue du sport, mais également de son investissement dans la cité.
Très bien, merci. Et que pourrais-tu nous dire de Milon devenu une sorte de figure symbolique?
Alors, et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on va voir apparaître une dichotomie entre le Milon, effectivement historique, dont nous savons un grand nombre de choses, et le symbole, hein, qui va devenir. C'est-à-dire qu'à travers toute l'Antiquité, on va après fabriquer des petites fables édifiante au sujet de Milon. Et la plus célèbre sera certainement sa mort, sur laquelle je reviendrai. On va par exemple nous raconter que Milon était tellement fort que quand il tenait une figue dans sa main, même plusieurs hommes assemblés étaient incapables de lui ouvrir les doigts.
Très bien.
Par exemple, alors ça c'est un exemple. Il y en a d'autres effectivement qui on nous disait par exemple qu'il avait été capable de manger un bœuf en son complet. Hein, et on a donc une figure de cette espèce d'athlète glouton. Mais ça devient une incarnation herculéenne. C'est ça qui est très intéressant.
Très bien. Et d'un point de vue historique, que pouvez-vous nous dire du Milon historique?
Alors, le Milon historique, d'après les travaux de Jean-Manuel Robineau, effectivement a existé en tant que tel. Il a été un grand athlète, il serait né dans une famille déjà bien placée dans la ville de Crotone, ce qui lui ouvre naturellement l'opportunité de pouvoir se consacrer au sport et ne pas travailler la terre comme 90% hein, de la population dans l'Antiquité, de pouvoir s'ouvrir à une carrière politique par la suite et de marquer cette carrière sous le sceau à la fois de l'homme d'action, citoyen, soldat, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite, grand sportif également. Et ce qui va être absolument remarquable, c'est que cet homme aura également une carrière philosophique. Et on a visiblement une image très particulière d'un homme complet, un peu incarnation du Kalos Kagathos, bon et bon, hein, tel qu'était l'idéal du gentilhomme dans l'Antiquité, même si les historiettes qui vont lui survivre par la suite vont parfois nous le présenter comme une brute épaisse. Donc c'est un homme plein de paradoxes.
Très bien, je comprends bien ce que tu nous as expliqué tout à l'instant. Mais quelle articulation ferais-tu entre l'athlète et le citoyen soldat?
Alors, et c'est là qu'en réalité, j'ai appris des tas de choses sous la plume de Jean-Manuel Robineau. Parce que cette question, justement, a déjà été soulevée dans l'Antiquité. Et donc, les auteurs d'époque romaine, alors plus particulièrement Plutarque, hein, qui est un auteur romain d'expression grecque qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ, se pose déjà la question du rapport qu'on peut avoir entre les deux. Et il remarque que dans la culture agonistique grecque, hein, c'est-à-dire que dans l'émergence des cités grecques, on voit apparaître des gymnases dédiés au sport où il y a des entraînements, et après on va avoir les concours eux-mêmes qu'on appelait les agones, hein, les compétitions, que dans cette culture agonistique grecque, on va voir que les différentes épreuves sont le plus souvent inspirées de la guerre. Et donc, par exemple, on va voir aux Jeux Olympiques des compétitions de course de cheval, des compétitions de lutte, des compétitions de saut, hein, comme quand on part à l'assaut d'une ville, des compétitions de lancer de trait, lancer de disque, en l'occurrence. Et c'est effectivement Plutarque dans l'Antiquité lui-même qui va évoquer la possibilité qu'en fait les Jeux Olympiques ou les disciplines dans lesquelles Milon, c'était la lutte en l'occurrence, va exceller, ce type de discipline était en fait intimement lié au monde de la guerre. Et c'est donc l'idée d'avoir fait rentrer dans le champ de la préparation, de la culture quotidienne du citoyen dans le cadre de sa cité, une préparation au long cours à la culture de la guerre, mais là à travers le sport, donc sans ennemi. Donc c'est tout à fait remarquable cette découverte qui était déjà sous la plume des écrivains antiques.
Très bien. Et quel lien unissait Milon et Pythagore ?
Alors ça, c'est encore une grande découverte que j'ai faite. Alors que j'ai faite sous la... Enfin, tout le mérite en revient bien sûr à Jean-Manuel Rubino. Il a attiré mon attention et je en suis éternellement redevable. Donc Pythagore, le grand sage philosophe, c'est un débat en soi antique, auteur du fameux théorème que nous lui connaissons, avait fondé son école philosophique à Crotone. Eh bien, figurez-vous que la fille de Pythagore, qui s'appelait Mia, alors c'est plutôt un surnom qui signifie la mouche par rapport au surnom de taureau que l'on donnait à Milon, eh bien, la fille de Pythagore qui s'appelait Mia, a épousé Pythagore. Et Pythagore est donc devenu un membre éminent de cette communauté philosophique, installée à Crotone. Donc il n'était autre que le beau-fils de Pythagore. Et bien plus que cela, parce qu'on voit Pythagore effectivement le mathématicien comme étant une figure quasi éthérée, c'est un homme qui a la tête dans les nombres, c'est un homme qui aurait probablement déjà eu ce mépris du corps qu'on retrouvera jusque sous le néoplatonisme. Et par opposition, derrière cette figure philosophique qui se consacre à la mathématique, à la spéculation, à la philosophie de l'époque, on va avoir la figure philosophique de Milon de Crotone, pythagoricien également, mais fortement ancré dans la culture civique de son temps et dans la cité. Donc les pythagoriciens pouvaient aussi être des hommes d'action. Et ça, pour moi, ça a été une découverte.
Très bien. Et pourrais-tu nous détailler les différentes versions de la mort de Milon, s'il te plaît ?
Et c'est là aussi où c'est tout à fait remarquable. Parce que si nous lisons les auteurs romains avec les morceaux de bravoure qu'ils aiment bien illustrer, je pense à Olugel plus particulièrement, on va nous présenter un Milon vieillissant qui un jour, chemin faisant, voit sur sa route un arbre que des bûcherons avaient abandonné, que des bûcherons étaient sur le point d'abattre et dans lequel ils avaient enfoncé un coin. Et notre ami Milon regarde ses mains vieillissantes et se demande s'il est encore capable d'écarter les branchages de l'arbre là où le coin avait été inséré. Il essaye et que se passe-t-il ? Au moment où il fait l'effort, le coin tombe et puis l'arbre se referme sur ses mains, le rendant prisonnier. Et on va nous représenter un Milon mourant la nuit venue, dévoré par des bêtes sauvages, parce qu'il n'a pas réussi à s'échapper. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit du Milon symbolique. Parce qu'en réalité, la réalité historique serait autre, et là nous devons donc cette hypothèse donc à Jean-Manuel Rubino, qui nous dit que exactement au moment qui correspond à la mort de Milon, nous savons que, alors que Pythagore avait quitté la ville de Crotone pour la cité de Crotone pour un voyage, la maison qui accueillait les travaux des pythagoriciens fut incendié. Et curieusement, par la suite, nous ne retrouvons plus de mention de Milon. Alors naturellement, notre ami Jean-Manuel Rubino va franchir un pas et émettre l'hypothèse que la secte, c'est généralement comme ça que l'on parlait des pythagoriciens, alors sachant que le mot n'était pas connoté comme maintenant, donc c'était la communauté philosophique des pythagoriciens, aurait probablement, possiblement, voulu prendre le pouvoir dans la ville de Crotone et qu'en fait, une émeute a évité cela, et que Milon, qui en était un des piliers, le défenseur, aurait trouvé la mort lors de cet incendie. Il s'agirait davantage de la version historique de sa mort.
D'accord, je comprends. Enfin, pour terminer cet entretien, j'aimerais te poser une dernière question. Nous évoquions un anachronisme possible dans le titre de l'ouvrage. Peux-tu nous en dire plus ?
Oui, eh ben, il s'agit du mot « sport ». Je rappelle le titre de l'ouvrage, « Milon de Crotone ou l'invention du sport ». Je n'ai pas dit, mais c'est paru chez PUF. Et effectivement, pour moi qui suis un philologue, le mot « sport » vient en fait de l'ancien français, passé en anglais, au sens de divertissement, sous la forme d'esport d'ailleurs, pour revenir ensuite par le français. Et en fait, va désigner un ensemble d'activités liées à la culture physique au sens le plus large, dans lesquelles vont être associées effectivement des activités équestres, mais énormément d'activités de ballon et tous les sports que nous connaissons, de balles, de ballon comme nous connaissons maintenant, et y compris l'athlétisme. Or, dans l'Antiquité, tout ce qui était lié de près ou de loin à une balle ou à un ballon rentrait dans ce qui était les jeux. Et donc, on va parler davantage d'activités athlétiques. Et donc, je pense à titre personnel qu'utiliser le mot sport ne correspond pas à la réalité antique. Et donc, il y avait un anachronisme. Et c'est ça qui avait attiré mon oreille. Maintenant, cet anachronisme, pour des raisons éditoriales, Jean-Manuel Roubineau l'assume très clairement en se disant « Oui, ce ne sont pas les mêmes sports que maintenant, mais l'idée générale de consacrer du temps libre à la culture physique a été en fait lancée par Milon d'Alexandrie, dans la mesure où en plus il va créer la possibilité d'une professionnalisation de cette activité. Donc il l'assume clairement et donc c'est un choix qu'il a fait sur lequel il s'explique très clairement, même si le champ sportif contemporain ne correspond pas exactement au champ athlétique antique.
Parfait Renaud, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Cet entretien a été très intéressant. Et merci encore et à bientôt.
Voilà, mais ce fut un véritable plaisir et j'espère que nous aurons encore l'occasion de parler littérature à l'avenir. Merci encore Nicolas.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.